On dit souvent que l'archéologue, puisque je suis plus archéologue qu'historien, fouille les poubelles de l'histoire. C'est une expression, sans doute une formule un peu facile, mais c'est quand même une réalité lorsque l'archéologue étudie en particulier des habitats dans lesquels les objets, le mobilier qu'il va découvrir correspond presque uniquement à des objets et à des restes qui ont été rejetés au fil des générations par les occupants de ces maisons, selon des modalités assez diverses. Des poubelles dans des fosses, dans des cours, dans des latrines, ou alors d'immenses décharges publiques qui sont créées en marge des villes et qui se déplacent au fur et à mesure de l'extension de celle-ci. Qu'on appelle la culture matérielle, c'est-à-dire l'étude des sociétés du passé à travers les traces matérielles qu'elles ont pu laisser, doit alors être envisagée à partir des assemblages de mobilier que nous découvrons et qui présentent de très nombreux biais par rapport à l'ensemble des objets qui ont été utilisés par les habitants des maisons que nous étudions. Donc la grande difficulté est toujours de faire l'équation entre ce qu'on a retrouvé et ce qui a été. Et en effet, les déchets ont, à toutes époques, comme aujourd'hui, fait l'objet de tri, de sélection, de récupération, de recyclage plus ou moins intense et qu'on a du mal à lire. Ces objets nous parviennent, dans le cas de l'archéologie, dans un état qui est un état fragmentaire, au point que à chaque fois que nous dressons des catalogues, il y a toujours une assez forte proportion d'objets qui sont indéterminés ou indéterminables, qui ne pourront jamais être déterminés. Donc c'est une première faiblesse dans notre approche, évidemment. Et puis ces objets, utilisés au fil des temps, ils sont aussi dispersés dans l'espace, de la poubelle individuelle au dépotoir, à la décharge publique à l'échelle d'une ville, et puis un certain nombre de solutions intermédiaires que nous reverrons. Et puis enfin, il nous manque une grande partie de ces objets, hein, puisque dans la plupart des cas, sauf quelques exceptions, les objets organiques ont disparu, c'est-à-dire que nous devons réfléchir sur les objets du passé sans avoir le bois, le cuir, le papier, la corne, par exemple, qui, sauf dans des milieux très particuliers, ne vont pas se conserver. Donc, en conséquence, on peut quand même se demander, à la fin de ces analyses toujours très longues, que vaut l'échantillon qui nous parvient et comment l'interpréter à bon escient, au mieux. Une réflexion sur les modes de vie contemporains, décryptés à partir des déchets que nous produisons, nous, aujourd'hui, constitue donc un observatoire qui est utile. Et c'est en cela que le projet de recherche déjà un petit peu ancien que je veux vous présenter, qui s'appelait l'opération poubelle en traduction littérale, nous apporte un certain nombre d'éléments de réflexion pour analyser les situations passées que l'archéologue étudie. L'opération poubelle a pris naissance en 1972 à travers une collaboration à travers les archéologues et anthropologues de l'Université d'Arizona, mais aux États-Unis, les archéologues et les anthropologues sont dans le même groupe, hein, font les mêmes études. Et puis un autre partenaire qui était plus inhabituel pour des archéologues, le département de la santé de la ville de Tucson. Des centaines d'acteurs ont accompagné le chef de file de ce projet, l'archéologue William Rudge, qui a inventé une nouvelle discipline qu'il a appelée la garbology, c'est-à-dire la science des déchets. Et au fil des années, cette longue enquête a porté sur 1350 mètres cubes de déchets qui ont été analysés un par un, qui sont issus surtout de poubelles individuelles, hein, et puis plus ponctuellement d'un certain nombre de décharges publiques, hein, qui ont fait l'objet évidemment d'une analyse uniquement parcelle. L'objectif premier de ce projet était d'appréhender la culture matérielle d'une ville américaine contemporaine à partir des détritus qu'elle peut produire. Évidemment, le potentiel d'un tel projet, qui est assez original par rapport aux approches habituelles des archéologues, n'a pas échappé aux autorités administratives américaines à l'époque, ni d'ailleurs à de nombreuses entreprises privées qui ont financé cette opération originale assez fortement pendant 21 ans, c'est-à-dire depuis sa naissance en 1972 jusqu'à son achèvement en 1994, et des publications postérieures ont encore suivi. Et donc ces entreprises et ces administrations ont proposé successivement aux archéologues toute une série de sujets d'études à travers la ville de Tucson d'abord, puis après à travers toute l'Amérique du Nord. Déplaçons-nous d'abord vers le berceau de ce projet, donc la ville de Tucson, deuxième ville de l'État d'Arizona, qui est établie à moins de 100 km de la frontière mexicaine, donc dans un milieu relativement aride. Aujourd'hui, c'est une ville qui comprend à peu près 530 000 habitants, mais qui sont dispersés, comme toutes les villes américaines, sur une surface importante, hein, près de 600 km², couverte surtout de pavillons individuels. Et puis, comme dans les autres centres urbains des États-Unis, c'est une ville qui est composée d'une mosaïque de communautés, avec des quartiers relativement séparés, et puis des quartiers aussi qui présentent des différences sociales qui sont assez fortement marquées. Évidemment, le mode de vie, les comportements de cette société urbaine avaient été étudiés largement par des chercheurs en sciences sociales au fil des années, mais il est apparu assez vite aux archéologues qu'il existait un décalage fort important entre ce qu'on pourrait appeler les représentations que se faisaient les habitants de leur manière de gérer les ressources et de jeter, et la réalité de leur pratique. Tout cela, ce décalage laissant planer quelques doutes sur la fiabilité de l'enquête orale qu'on pouvait mener sur ces sujets-là. Prenons un exemple qui présente un échantillon de 14 foyers. 9 des enquêtés déclarent ne jamais consommer de bière, mais leur poubelle révèle quand même un déni systématique, puisque certains qui ont dit qu'ils ne buvaient jamais de bière laissent traîner un nombre de bouteilles considérable chaque jour dans leur poubelle. Donc le graphique restitue, de manière probablement plus fidèle, les quantités hebdomadaires qui sont consommées par ces gens-là. Et de la même manière, on s'aperçoit que les gens vont sous-évaluer leur consommation de soda sucré, dont vous connaissez l'importance aux États-Unis, de sucreries ou de produits gras. Et en revanche, il y a un certain nombre de produits que les enquêtés vont avoir tendance à surévaluer fortement, tous les produits qui donnent d'eux une image plus positive que le gras ou les sucreries. Et puis aussi, globalement, leur consommation générale, hein, ils montrent dans les enquêtes qu'ils ne manquent de rien. Donc étudier les poubelles des habitants plutôt que leurs discours, ou que les statistiques officielles, qui présentent les mêmes billets que les discours, est donc apparu comme un bon moyen d'appréhender, peut-être de manière plus pertinente, la gestion des ressources, en se basant sur les actions plutôt que sur les intentions, ou sur une mémoire qui peut être assez rapidement biaisée. Et donc, à travers le contenu des poubelles, il a été possible d'étudier la trajectoire d'un certain nombre de produits dans la société, de leur acquisition jusqu'à leur rejet définitif, et puis de constater l'évolution de ces tendances au cours d'une période relativement courte, un peu plus d'une vingtaine d'années, à la fin du XXe siècle, puisque l'enquête ne s'est pas poursuivie depuis, en tout cas aux États-Unis. Il y a d'autres projets actuellement qui sont menés, un petit peu différents, au Japon ou en Scandinavie, par exemple, sur les plastiques. La mise en œuvre du projet était évidemment un petit peu compliquée, à la fois parce qu'il fallait protéger la vie privée de ses habitants, et puis aussi par la taille de l'organisme urbain qui était étudié. Il était évidemment impossible d'étudier les poubelles de 530 000 habitants, même avec des moyens relativement importants. Et donc un échantillon représentatif des foyers de la ville a d'abord été élaboré à partir du recensement de la population. Il a conduit à une collecte hebdomadaire ou bi-hebdomadaire des poubelles déposées devant la porte de quelques foyers, qui étaient des foyers choisis au hasard, mais qui correspondaient à chaque groupe de l'échantillon de population qui avait été réalisé. Et donc, au lieu d'avoir les habituels camions de poubelles qui passaient, c'était des étudiants qui venaient prélever les poubelles chaque semaine. Et à terme, dans cette ville et dans d'autres par la suite, hein, ce sont 15 000 échantillons, 15 000 poubelles qui ont été ainsi concernés et qui ont fait un ensemble statistiquement valable et qui s'est allé relativement dans le temps. Pour protéger l'anonymat de ces foyers, ils n'apparaissent que sous la forme d'un numéro, hein, sans adresse, sans nom. Et puis, un certain nombre d'articles personnels n'ont pas été inventoriés. Tout ce qui est courrier, photographie, etc. a été directement rejeté. En revanche, tout le reste des déchets a été analysé, en majeure partie sous la forme de travaux pratiques d'étudiants, hein, équipés et immunisés pour la circonstance. A priori, tous ont survécu. Et les données ont été consignées sur des bordereaux, d'abord sur papier, puis informatique, qui recense 133 catégories différentes d'articles. Donc on note sur chacune des lignes la nature du produit rejeté, le volume, le poids, l'origine et le coût, ces deux dernières informations pouvant être approchées par les emballages qui évidemment apparaissent en quantité dans ces déchets. La multiplication de telles études de cas a permis petit à petit de construire des modèles de comportement selon le genre, selon la classe d'âge et selon l'origine ethnique des habitants. Les marqueurs particuliers aux classes d'âge et au genre sont sans doute les moins faciles à manipuler. Il est relativement facile de discerner les bébés et les femmes, qui effectivement donnent lieu à un certain nombre de produits qui sont facilement reconnaissables. Il est plus difficile d'identifier les produits consommés par les enfants et moins encore par les hommes. C'est un résultat moi, qui m'a un petit peu étonné parce qu'on observe toujours, travaillant sur le Moyen-Âge, que pour le Moyen-Âge, quand on étudie des déchets médiévaux, on ne voit pratiquement que des hommes. Les femmes et les enfants sont pratiquement illisibles dans ces assemblages-là. Et donc, par la suite, l'équipe a proposé un certain nombre d'équations qui permettent d'évaluer la population d'un foyer à partir des déchets qui ont été collectés. Le traitement statistique et cartographique de cette énorme documentation a révélé un certain nombre de tendances qui jusque-là étaient inconnues et qui entrent sans doute quelquefois en contradiction avec certains stéréotypes de consommation, entre autres ceux qui voudraient que les plus riches consomment plus et plus cher. Les classes d'âge et les origines ethniques révèlent également des profils relativement particuliers par rapport aux autres. Et je voudrais vous donner rapidement quelques exemples des résultats obtenus parmi ceux qui me paraissaient effectivement originaux et qui, moi, me posent problème en tant qu'archéologue et les interprétations que je peux faire assez habituellement comme mes collègues. Déjà, contrairement à la vision classique des archéologues, les objets d'un certain luxe ne correspondent pas obligatoirement aux classes les plus riches. Les familles aux revenus les plus bas ont par exemple tendance à acheter les articles éducatifs pour enfants les plus coûteux. D'autre part, des objets de consommation courante manifestant un certain statut social apparaissent plus fréquemment chez les personnes âgées. Peut-être ont-elles plus de moyens ou plus envie de ces produits-là. Mais on les retrouve également dans le foyer des jeunes adultes, de manière préférentielle, ou dans le foyer des membres qui sont issus d'une minorité ethnique. Autre observation a priori contradictoire, mais qui trouve une explication assez simple, les pauvres rejettent plus d'emballages que les nantis. C'est-à-dire que les poubelles des pauvres sont plus grosses que celles des riches. Cela découle d'une hypothèse classique des économistes, selon laquelle les pauvres achètent de plus petites quantités de produits, parce qu'effectivement, l'argent ne coule pas à flot, et donc ils payent globalement plus cher la même quantité de produits et rejettent plus d'emballages. On est, je vous l'ai dit, à la frontière du Mexique. On a une communauté hispanique qui est importante. Et l'acculturation de ces familles originaires du Mexique a aussi permis de mettre en évidence un certain nombre de particularités un petit peu inattendues. Si leur mode de vie originel a laissé quelques traces dans leurs habitudes alimentaires, vous connaissez la cuisine mexicaine, les nouveaux arrivants vont très vite surinvestir dans certains produits parce qu'ils considèrent que ces produits sont caractéristiques de la nouvelle nation, des États-Unis. Par exemple, ils se mettent à consommer une grande quantité de viande de bœuf, une grande quantité de soda sucré, ce qui n'était pas le cas dans leur patrie d'origine. Cette tendance, elle a été expliquée par le fait de la volonté d'être, disons, plus américain que les Américains. Mais on relève aussi que, bizarrement, les quantités absorbées sont identiques à celles des Américains, mais des Américains 20 ans auparavant, comme si ces gens-là étaient restés bloqués sur une représentation des États-Unis qui désormais était un petit peu dépassée. Autre élément, le gaspillage, qui est quand même assez fort aux États-Unis, mais ce gaspillage ne relève visiblement pas de manière étroite du niveau de richesse, mais plutôt d'habitudes culturelles. Ainsi, les spécialistes du gaspillage, ce sont quand même les familles blanches de la classe moyenne qui gaspillent fréquemment, en particulier des denrées alimentaires qui sont rejetées sans avoir été ouvertes ou consommées. Alors que les minorités ethniques possédant le même niveau de richesse évitent clairement cette forme de gaspillage. Les Hispaniques, par exemple, consomment plus de plats dont les restes vont aisément être recyclés dans d'autres repas par la suite. Et plus généralement, les résidents disposant de revenus qui sont des revenus élevés sont très élevés, sont caractérisés par un faible gaspillage d'aliments et d'objets, contrairement à la classe moyenne, à la middle class américaine. Et là aussi, ça paraît un petit peu contradictoire. La rareté temporaire d'un produit ou sa cherté peuvent entraîner un surcroît de gaspillage. Deux exemples. Au printemps 1973, on a eu une pénurie de viande de bœuf. Et pourtant, malgré la forte hausse des prix que cela a ponctuellement entraîné, on voit que le rejet de cette viande a alors augmenté de 9% par rapport aux périodes où cette viande était moins chère. Cette apparente contradiction, elle s'explique assez facilement. Pour réaliser des économies à l'achat, les ménages ont constitué des stocks importants, des réserves. Ces réserves n'ont pas toujours été très bien gérées, donc ils n'ont pas toujours su en assurer la conservation. Et la fréquence des pièces de viande ou des paquets de viande énormes rejetés a alors augmenté. De la même manière, deux ans plus tard, en 1975, le prix du sucre a considérablement augmenté, hein, il a doublé en quelques mois. Et pourtant, cette période correspond au triplement du rejet des produits à base de sucre, simplement parce que les habitants sont allés faire des stocks au Mexique, où le sucre n'avait pas monté de la même manière. Et on voit alors que dans de tels cas, la rareté temporaire d'un produit va introduire une surabondance de ce produit dans les poubelles, hein, ce qui évidemment constitue, avec un regard d'archéologue, un leurre archéologique évident. Deux derniers exemples. Autre cas intéressant, les produits toxiques. Là, je suis presque dans l'actualité. Ces produits toxiques sont majoritairement rejetés. Ils constituent à peu près 1% des déchets en poids. Mais d'une manière qui n'est pas la même selon les classes sociales. On s'aperçoit que les plus modestes vont principalement rejeter des produits toxiques qui sont liés à leur voiture, l'huile de vidange par exemple. Les classes moyennes rejettent surtout des produits qui sont liés à l'entretien de leur maison, peinture, encaustique, etc. Quant aux plus riches, ils se signalent par le rejet de produits toxiques qui sont plutôt plus liés au jardin, des herbicides par exemple. Donc on a l'impression que chaque strate sociale va avoir une tendance à choisir des vecteurs un petit peu différents d'ostentation et surinvestir ces secteurs. Les plus pauvres, c'est la voiture, la classe moyenne, c'est la maison, et les plus riches, c'est le grand jardin qui est autour. Et puis enfin, on a quand même des catégories qui suivent un itinéraire un petit peu original, une trajectoire particulière. C'est le cas des meubles. Un autre archéologue, Michael Schiffer, avait bien mis en évidence l'importance de la transmission des meubles en dehors du commerce traditionnel et leur passage au statut de déchet après plusieurs vies successives chez plusieurs propriétaires. Et donc, dans cette tendance qui est plutôt celle de l'achat d'occasion, de transmission dans la famille, voire de logement dans des meublés, on s'aperçoit que le pourcentage des meubles achetés neufs est relativement faible, hein, à peu près un cinquième de l'ensemble. Et donc là, on attend plus pour les rejeter, puisqu'on se les passe de membre de la famille à membre de la famille ou d'une famille à l'autre. Donc voilà quelques-uns des résultats qui, effectivement, nous font déjà réfléchir un petit peu à nos interprétations sur des passés plus lointains. Cette exploration des poubelles a été la première étape du projet. La deuxième s'est déroulée pour suivre plus loin les ordures, c'est-à-dire aller jusqu'à la décharge publique. Et il y a 16 décharges publiques des États-Unis et du Canada qui ont été partiellement analysées. Ces décharges publiques ont été choisies en fonction surtout du milieu climatique, de la géologie du milieu climatique, puisque évidemment, de l'Arizona aride au milieu semi-tropical de Floride, en passant par le climat plutôt froid de l'Ontario canadien, on avait des conditions de conservation de ces déchets qui étaient relativement différentes. Donc il fallait pouvoir pondérer l'analyse en fonction de ces milieux assez différents. Ces contextes ont bien sûr une grande influence sur la conservation des déchets. Et ce projet a été nouveau. Maintenant, il y en a eu beaucoup par la suite, mais À l'époque où il a été mis en place, il n'existait aucune donnée officielle fiable sur le contenu de ces décharges et sur leur évolution au fil des temps. Donc c'est là que ça a pu apporter quelques informations. Alors, comment pratiquer en la matière avec des méthodes d'archéologue? On est sur des ensembles qui correspondent à ce qu'étudie l'archéologue habituellement, c'est-à-dire des ensembles stratifiés. On a eu des apports successifs de ces déchets. On n'a pas fouillé des décharges publiques. Vous verrez une photo par la suite vous montrant que c'est impossible. Hein, quand on a un tas de déchets de 150 mètres de haut, on ne peut pas effectivement faire un trou au milieu jusqu'à la base. Et donc, ce qui a été utilisé, c'est l'appareil qu'on voit ici, c'est-à-dire un système qui permettait de faire des carottes, de les prélever, hein, comme on fait dans les glaciers, par exemple, de les prélever et puis d'analyser après l'évolution des échantillons qui étaient prélevés. Après, il fallait évidemment dater les différentes couches de déchets. Ça a été fait à l'aide de ce que les archéologues appellent des fossiles directeurs, donc un certain nombre de types d'objets qui sont bien datés. Les opercules de Canette ont une vie relativement courte, donc on arrive à les dater. On peut dater avec les méthodes relativement traditionnelles des archéologues ces apports assez récents. Mais donc ici, au lieu d'enregistrer un instantané, hein, les poubelles d'une famille pendant une semaine, des poubelles individuelles, il était nécessaire d'appréhender une masse de vestiges où tout le monde était confondu sur à peu près un demi-siècle, voire plus dans quelques cas. Par exemple, pour donner un exemple de ces gigantesques décharges publiques américaines, entre 1948 et 2005, une partie des déchets dont vous imaginez le volume produit par la ville de New York a été déposée dans la décharge de Fresh Kills, qui est implantée dans les marécages de Staten Island. On pourrait discuter sur l'avantage de mettre des poubelles dans un marécage, mais cette accumulation de déchets a fini par donner naissance à une montagne qui fait 150 mètres de hauteur et qui accumule à peu près 870 millions de mètres cubes de déchets. 2005, le site est fermé et comme on l'a fait ailleurs, le site a été en partie construit, en partie converti en parc urbain, que vous voyez sur l'image. C'est la juxtaposition des deux images de la décharge publique en activité et du joli parc urbain tout vert est assez frappante. Et on est là dans une pratique qui est une pratique ancienne, celle de combler des espaces humides ou d'anciennes carrières avec des déchets pour les livrer par la suite à l'urbanisation. C'est une démarche qui est classique dès l'Antiquité, qu'on connaît bien au Moyen-Âge aussi et plus tard. Cette démarche qui permet de récupérer du terrain constructible hors de l'eau, dans les zones marécageuses, avec tous les impacts environnementaux, les problèmes de stabilité de construction que ça peut engendrer par la suite, hein, c'est effectivement une vieille tradition. Les carottages qui ont été menés dans ce site et dans d'autres ont montré que les proportions des différents types de déchets avaient été extrêmement mal évaluées par les administrations, la littérature spécialisée, qui n'avait jamais reconnu directement quelle était la nature réelle des produits rejetés dans ces décharges et les proportions de chacun d'entre eux. On voit sur ce graphique la différence entre l'estimation officielle théorique et la réalité de ce qui a été trouvé dans les carottages. Les couches pour bébés, les bouteilles en plastique ou le gros électroménager étaient très surestimés par rapport à ce qui a été réellement trouvé dans les différents sondages, alors que des produits peut-être plus discrets comme le papier ou les déchets organiques étaient extrêmement présents, plus qu'on ne le pensait, et que la part des débris de construction amenés dans ces sites était également extrêmement importante par rapport aux évaluations. Donc ça change un petit peu la lecture qu'on pouvait en avoir. Aujourd'hui, on a des données plus officielles, plus précises. Ce n'était pas le cas dans les années 1980 ou 1990. D'autre part, ça a permis d'étudier à l'aide d'autres corps de métier, hein, des biologistes, des microbiologistes, des chimistes, d'étudier quelle était la dynamique de ces vastes dépotoirs, comment est-ce qu'ils évoluaient avec le temps. Et là aussi, les résultats sont quelquefois un petit peu à l'opposé de l'idée qu'on s'en faisait à l'époque. On imagine, par exemple, que les restes organiques se transforment rapidement en humus. Alors, c'est effectivement le cas quand on a un bac de compostage aujourd'hui dans son jardin, mais on trie très sévèrement les déchets pour qu'ils se transforment en 6 mois en humus. dans une déchetterie non triée, on s'aperçoit que avec des différences qui sont relativement importantes selon les milieux climatiques, une lecture étendue sur à peu près un demi-siècle montre que les déchets organiques, qui représentent à peu près 65% du volume initial, vont évoluer très lentement au cœur de la stratigraphie, au cœur de l'accumulation qui constitue la déchetterie, simplement parce qu'ils évoluent en milieu anaérobie, hein, c'est-à-dire sans contact avec l'atmosphère, ce qui change très fortement leur évolution. Et dans ce milieu un peu particulier, on a à l'origine des micro-organismes qui pourraient détruire les déchets, mais qui ont besoin d'oxygène. Donc, ceux-là disparaissent rapidement hein, si on accumule d'autres déchets par-dessus. Et donc, ce sont des organismes anaérobies hein, qui réussissent à survivre dans ces milieux clos qui vont intervenir sous la forme de cortèges successifs qui, petit à petit, vont faire une partie du travail de décomposition des déchets. Pour le papier, par exemple, on a trois cortèges successifs de petites bêtes. La première, ce sont les Clostridia ou d'autres bactéries dont le travail consiste à fragmenter la cellulose du papier en divers sucres, donc transformation en sucre dans un premier état. Dans un deuxième état, on a d'autres bactéries qu'on appelle les bactéries acétogènes qui vont faire fermenter ces sucres et qui les transforment en acide acétique. Et puis, un stade final, qui est le stade où interviennent des bactéries qui sont dites méthanogènes, hein, c'est-à-dire qu'elles vont transformer l'acide acétique en gaz méthane. Et à partir de là, effectivement, le volume des primitifs des déchets s'est considérablement amoindri. On a eu des transformations chimiques importantes. Les deux dernières étapes, celle de la fabrication d'acide acétique, celle de la fabrication de méthane, elles amènent une élévation de température. Hein, l'intérieur d'une décharge publique, c'est un endroit où on peut avoir une température qui va jusqu'à 60 degrés centigrades, ce qui évidemment amène une transformation des produits qui sont autour, hein, puisqu'ils sont chauffés pendant un temps assez long. Et puis en fin de course, mais très tard, l'ensemble de ces composantes des déchets vont atteindre un nouvel état d'équilibre et ne vont plus beaucoup bouger. Mais cette mutation, elle est lente, puisque après trois décennies, la moitié des restes sont encore, y compris des restes organiques, sont parfaitement identifiables dans les carottages. Plus encore quand on a des milieux extrêmes, hein, quand vous avez un milieu très sec, qui va bien conserver les choses, ou des milieux humides, qui vont aussi amener des conservations particulières des déchets organiques. Et au bout de 30 ans, l'activité biologique n'est pas terminée, hein, elle se poursuit à l'intérieur de ces ensembles-là. Alors, il y a des choses qu'on ne connaît pas très bien encore aujourd'hui, c'est certaines associations de débris, quand vous mettez deux matériaux côte à côte, qui vont provoquer des réactions chimiques un petit peu particulières. On s'est aperçu, par exemple, que le plâtre allait émettre des sulfures et que les sulfures bloquaient l'émission de méthane. Donc là, la méthanisation ne se fait pas et il est probable que les matériaux autour du plâtre évoluent de manière un petit peu différente. Alors évidemment, toutes ces observations, elles concernent un temps relativement court par rapport au temps historique, hein, moins d'un demi-siècle ou à peu près un demi-siècle. Et il serait intéressant, là je parle à nouveau, je remets ma casquette d'archéologue, il serait intéressant de mettre en place des procédures d'analyse microbiologique dans des contextes qui sont nettement plus anciens que ceux-là. Et puis s'intéresser, ce qui a été peu fait pour l'instant, à l'effet d'autres matériaux qui entraînent des changements dans leur environnement. Je pense particulièrement au plomb. On sait en archéologie que les objets contenus dans du plomb vont avoir une évolution particulière, voire se conserver de manière tout à fait exceptionnelle. Et là, il y a un champ de recherche à développer que les archéologues n'ont pas encore vraiment développé, parce que s'ils fouillent toutes sortes de poubelles, effectivement, ils n'ont pas trop fait appel aux spécialistes des bactéries pour essayer de trouver des éléments dans ce sens. D'autres approches chimiques et microbiologiques ont montré que, contrairement à ce qu'on dit souvent, les produits nocifs ont peu de tendance à percoler, c'est-à-dire à aller du sommet vers la base de la décharge publique, puis évidemment vers les nappes phréatiques. contrairement à l'idée qu'on s'en fait souvent. Et puis, les éléments pathogènes, autres que les bactéries qu'on vient de voir ici, qui ne sont pas pathogènes, qui font juste leur travail, c'est-à-dire les bactéries et les virus, vont décliner très rapidement au cœur de cet amas de détritus. On a vu à l'époque des grands fantasmes sur le danger des couches culottes rejetées dans les poubelles. En fin de compte, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Et puis enfin, la corrélation entre le poids et le volume des déchets va varier très fortement selon le contexte géologique, selon le climat. Il y a des vestiges qui prennent du volume, d'autres qui en perdent. Globalement, il est sûr que le volume de la décharge reste plus fort dans un milieu très humide, hein, comme à la Nouvelle-Orléans, où il y a eu des carottages qui ont été faits, que dans le désert d'Arizona, où on est sur des choses qui se stabilisent relativement plus vite. Alors, les déchets urbains sortent de la ville pour aller dans ses marges, mais aujourd'hui, ils sont aussi exportés en grande quantité, à plus grande distance, en particulier vers les territoires ruraux. Aujourd'hui encore, il y a 3000 tonnes de déchets qui partent chaque jour de New York pour l'État de Virginie, qui visiblement a des espaces suffisamment libres et a accepté ce stockage des déchets. Et puis, toutes les grandes villes font de même. Donc là, une analyse a été faite, effectivement, sur la circulation des déchets à travers le territoire des États-Unis, hein, particulièrement dense sur cette côte ici. Cette exportation des déchets, elle s'est même mondialisée, puisque, entre autres, les navires américains sont aujourd'hui mis à la casse et dépecés au Bangladesh. Donc on leur fait traverser l'ensemble de l'océan. C'est un phénomène qui, là, évidemment, intéresse peut-être moins les archéologues. Il est relativement récent. J'imagine pas que les poubelles de Paris au XVe siècle aient été transportées en Pologne. Mais il faut néanmoins s'interroger sur la possibilité d'une circulation très précoce, à longue distance, non pas des poubelles, mais de tous les éléments qui sont récupérés et recyclés, qui peuvent, eux, se déplacer comme nouvelles matières premières pour le futur. Et puis, au-delà des poubelles individuelles et au-delà des décharges officielles, il y a évidemment, comme on en connaît en France, des accumulations sauvages qui sont extrêmement nombreuses, puisque autour de la seule ville de Tucson, les parties du désert qui sont accessibles en voiture ont permis de repérer plus de 700 sites, hein, qui sont des sites de rejet sauvage de déchets. Alors, ils ont été analysés aussi, là, avec la méthode de prospection des archéologues, hein, c'est-à-dire qu'on a une prospection de surface où on localise les différents déchets et après, on les analyse, ce qui permet de faire des cartographies. Un exemple, ici, qui est un cul-de-sac, hein, c'est le bout de la route au milieu du désert, et on y trouve une présence presque exclusive d'un petit nombre de types de déchets, des contenants d'alcool, des vêtements, des préservatifs usagés, qui fournissent une idée relativement claire des activités qui s'y déroulent. Alors, vous voyez, tout ceci ouvre un certain nombre de questions sur nos pratiques contemporaines, évidemment, mais sur ce qu'on pourrait faire de ces enseignements pour avoir peut-être des interprétations un petit peu différentes que les lectures un petit peu faciles qu'on a souvent sur les dépotoirs du passé. Évidemment, il ne faut pas verser dans l'anachronisme, on ne va pas plaquer sans nuance les résultats de l'enquête sur Tucson sur les dépotoirs de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. On est sur des modes de vie, des types de déchets différents. Mais comme d'autres projets archéologiques qui portent désormais sur l'époque contemporaine, l'archéologie contemporaine est en train de se développer depuis une quarantaine d'années outre-Atlantique, depuis une quinzaine d'années en France, l'opération Poubelle est un observatoire qui est utile pour envisager un certain nombre de pistes d'enquête qui sont alternatives, des méthodes d'approche originales, même si là, en fin de compte, c'est plutôt la méthode classique des archéologues, hein, qui a été utilisée dans ce projet. Et puis, ça nous amène surtout, dans nos interprétations, à faire preuve d'une grande prudence dès qu'on aborde, à partir des vestiges de la culture matérielle, des interprétations qui sont des interprétations sociales ou économiques. Où là, effectivement, l'archéologue, dès qu'il parle de la vie quotidienne ou des techniques, il est assez à l'aise. Dès qu'il en sort, c'est un petit peu plus difficile. Parmi ces difficultés de lecture, les travaux du Garbage Project montrent à de nombreuses reprises que je vous l'ai dit tout à l'heure, les pratiques ostentatoires ou le gaspillage ne sont pas obligatoirement des indices de richesse. Donc là, notre interprétation habituelle, c'est qu'effectivement, on a des objets luxueux, on a des grandes quantités d'objets, on a des indicateurs des élites des siècles passés. Or, ça ne paraît pas aussi simple que ça. Ainsi, si on regarde les contextes urbains de la fin du Moyen-Âge, pour lesquels nous avons à la fois beaucoup de dépotoirs individuels et désormais un certain nombre de décharges publiques, dans quelques jours, Bénédicte Guyot présentera les trois décharges publiques découvertes des 15e, 16e siècle, découvertes récemment à Rouen, qui sont en cours d'analyse. Mais il faudrait se demander si la présence dans ces ensembles d'objets qui sont plutôt luxueux ou d'immenses quantités d'objets dans des poubelles individuelles ne pourrait pas être, dans certains cas, un signal donné par ceux que Pierre Bourdieu appelait des prétendants, hein, c'est-à-dire des familles qui viennent d'accéder à un statut plus élevé ou qui sont en cours d'acculturation et qui veulent le montrer. On est peut-être, dans certains cas, dans les apparences plutôt que dans la réalité. Les études archéologiques menées dans diverses villes ont révélé, là je vous parle de la fin du Moyen-Âge, où on a beaucoup d'informations désormais, qu'on avait au XIVe, XVe siècle un renforcement de la gestion collective des déchets. On a de plus en plus de réglementations qui vont de pair avec l'ouverture des premiers grands dépotoirs périurbains. Donc on arrive en gros dans le système actuel, hein, on a des poubelles individuelles, moins bien gérées qu'aujourd'hui, et de manière différente. Et on a une deuxième phase, hein, où une partie de ces poubelles vont aboutir dans des décharges collectives. Ces dépôts décentralisés, en marge des villes, dans des espaces vacants, correspondent à la fois à une pression foncière et à une pression démographique accrue. Il n'y a plus de place dans les villes. Avant, on avait des bâtiments qui étaient relativement espacés. On avait des cours, des jardins qui permettaient de creuser des trous et de mettre les poubelles à l'intérieur. À partir du moment où tout est construit, ça devient beaucoup plus difficile et la population s'est évidemment accrue en conséquence. Comme dans l'Amérique de la fin du XXe siècle, on peut se demander aussi si la mise en place de ces infrastructures, de ces grands dépotoirs à l'extérieur des villes, n'a pas eu pour corollaire la multiplication des déchets. En gros, c'est une espèce d'appel d'air que de créer un grand dépotoir, c'est qu'effectivement, les gens ne vont plus hésiter à produire des déchets et vont peut-être moins recycler. Désormais, c'est plus facile de les évacuer et on a la place pour le faire. On peut aussi se demander, et là, on est dans ce qu'on appelle la fabrique urbaine, dans la fabrication de la ville, jusqu'à quel point le mouvement qui existait dès l'origine des villes, qui était un exhaussement progressif des sols des villes, parce qu'on avait tendance à ne pas détruire complètement les bâtiments antérieurs, à répandre les déchets pour surélever les sols, ne s'est pas en partie interrompu à partir du moment où on a eu beaucoup plus de facilité à évacuer les déchets en dehors de la ville. Ça, c'est quelque chose qui devrait être observé aussi plus en détail. On ne dispose évidemment pas, pour un passé relativement lointain, d'évidence, d'informations aussi précises que les amateurs de poubelles de Tucson. Mais on travaille comme eux sur des poubelles individuelles, sous les maisons ou à côté, qui ne correspondent hélas pas, comme à Tucson, à des rejets journaliers ou hebdomadaires. Hein. Ce qu'on a, c'est effectivement un moment de la vie de la maison jusqu'à ce qu'on cure la fosse à déchets pour l'emporter à l'extérieur. Et puis, on a aussi des décharges publiques, officielles ou sauvages, qui existent dès cette époque-là. On a toutes les activités de démolition et de construction, qui vont aussi engendrer un certain nombre de déchets, même si au Moyen-Âge, beaucoup plus qu'aujourd'hui, on a tendance à réutiliser la plupart des matériaux dans les constructions postérieures. Et puis, on a aussi tout ce qui concerne les bâtiments et les espaces publics, qui sont des lieux qui vont aussi produire et permettre le stockage d'un certain nombre de déchets. Tout ça amène à des rejets qui peuvent être des rejets sauvages ou des rejets organisés. Hein, les villes situées en fond de vallée, en France par exemple, sont des villes dont l'espace constructible a été établi par une gestion des poubelles en général. On a gagné sur le marécage, sur la rivière, sur les zones humides, en stockant petit à petit, en obligeant la population à stocker ses déchets dans ces zones-là pour avoir des zones constructibles le long des cours d'eau. Et puis, on a fini donc par mettre en place des dépotoirs collectifs périurbains, plutôt à la fin du Moyen-Âge. Les villes grandissant vite à partir du 15e siècle, elles ne durent pas très longtemps. Hein, c'est-à-dire qu'au bout d'une cinquantaine d'années, on est arrivé dans des espaces qui sont devenus des espaces urbains. On est obligé d'aller encore plus loin pour stocker les déchets. Ça permet aussi donc de remblayer les rives, hein, d'agrandir l'espace constructible ou de mettre en place des terrasses quand on a un relief dans la ville. Tout ça, c'est une accumulation de poubelles en grande partie. Et ça crée de nouveaux espaces à urbaniser. Mais à toutes ces étapes, tous nos contextes découvertes ne comprennent donc qu'une partie des vestiges qui ont été rejetés, une partie a disparu naturellement, mais il y a eu aussi une autre partie qui est une partie qui a été récupérée pour en faire autre chose. Ça amène un nouveau biais dans ce qu'on peut lire de ce qui a été conservé, puisqu'il est effectivement très difficile de quantifier quelle est la part de la récupération et du recyclage des activités qui ont suscité de nombreux métiers autrefois. Et il paraît donc indispensable de se pencher aussi sur ces groupes et sur leurs activités qui ont suscité une économie parallèle qui a été sous-estimée jusqu'à aujourd'hui. Et puis ces contextes de découverte archéologique, comme l'opération de Tucson, nous invitent à réaliser des analyses globales du mobilier découvert dans des poubelles individuelles ou dans des décharges publiques pour tenter des lectures socio-économiques, soit d'une famille ou d'une maison particulière, soit globalement d'un quartier de la ville. Et au-delà, de s'intéresser à la dégradation progressive de ces déchets, dans laquelle les analyses environnementales auraient toute leur part et qui nous permettraient de mieux mesurer ce qui a disparu par rapport à ce qui a existé. Je vous remercie beaucoup.